Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Lando Norris est le 35e champion du monde de l'histoire de la Formule 1, le 11e britannique à 26 ans. Lando Norris a été donc sacré pour la première fois champion du monde de Formule 1 de sa carrière à Abu Dhabi. On va bien évidemment revenir sur ce week-end. Il y avait énormément d'attentes, d'excitation autour de ce week-end de course. On a été servi le samedi, peut-être un petit peu moins le dimanche. On va parler de cette course avec les ingénieurs du paddock RMC dans quelques instants. Je vous rappelle que c'est bien évidemment la dernière course de la saison, que vous pouvez continuer à vous abonner au paddock RMC sur toutes les plateformes de téléchargement, parce que il y aura du contenu Formule 1 pendant la trêve. On est en train de bosser dessus. Il y aura un gros débrief de la saison, un débrief complet de la saison lundi prochain. Donc voilà, restez connectés aux notifications et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la page Instagram RMC Formule 1. De toute manière, c'est là que vous voyez un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la F1 sur RMC. Les ingénieurs du paddock, le principal est bien évidemment là pour le dernier Grand Prix de la saison. Jean-Luc Roy from Miami. Salut mon Jean-Luc.
Oui, salut mon Nico, bonjour à tous.
Je suis accompagné par tes deux fidèles ingénieurs, Arnaud Valadon et Louis Gerbier. Salut les mecs.
Hello!
Salut tout le monde! Hi everyone!
Salut les gars!
Oula. On se met à la mode anglaise.
Good morning, good afternoon! Yes.
Je vois que la saison a été longue et pas que pour les pilotes de Formule 1, pour les ingénieurs du paddock aussi, ça ramasse un peu. Ben les gars, vous savez que les auditeurs doivent nous noter sur les plateformes de téléchargement, c'est le jeu. Si vous aimez le podcast, vous allez sur la plateforme, il y a les petites 5 étoiles à nous décerner et nous ça nous fait très plaisir, c'est super important pour le podcast. Nous on a l'habitude de le faire depuis le début de la saison, pour chaque Grand Prix, Jean-Luc, la note de ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui, moi perso, le dimanche, m'a laissé un peu sur ma faim. Combien tu lui mets à ce Grand Prix ?
Il faut effectivement donner quelques explications, mon Nico. Et naturellement, je précise avant, il faut toujours préciser les choses, que j'englobe la totalité du week-end, dont c'est formidable. C'est vrai, le Grand Prix en lui-même peut être un tout petit peu en retrait, mais j'irai quand même jusqu'à 4, parce qu'on a attribué un titre de champion du monde. On a eu une qualif une nouvelle fois, on a dressé la table, j'allais dire, on a mis les trois protagonistes devant. Il y avait de la tension, il y avait de l'émotion, il y a eu beaucoup d'émotion à la fin. Allez, je mets 4.
Les gars, Louis, Arnaud.
Allez, je décompose, je mets 2 points pour juger les qualifs, là je mets un 2 sur 2, et pour la course il reste 3 points. Je vais mettre la moyenne 1,5, donc ça fait 3,5 sur 5.
Et je retiens ça.
Le gars était prof d'histoire géo.
Ouais, de ouf.
C'est très fort ce qu'il a fait. À toi, Louis.
Le week-end était haletant, donc on était à fond devant, mais c'est vrai que le Grand Prix était pas, il s'est pas passé 1000 choses, donc je mettrais quand même par rapport à l'intérêt et au Grand Prix une note globale, un peu autour d'Arnaud, 3,5,
Allez. Moi aussi, je mets un petit 3,5, mais peut-être un 4 pour le côté émotionnel. Jean-Luc m'a convaincu. Allez les gars, c'est parti, on se plonge dans ce débrief du dernier Grand Prix de la saison. Je vous donne le classement, c'est la tradition dans le paddock. C'est Max Verstappen qui a remporté son 8e Grand Prix de la saison. Verstappen qui sera donc le pilote à avoir le plus gagné de course cette année et qui vient mourir à 2 petits points de Lando Norris au championnat du monde. Il aura une nouvelle fois réalisé un week-end parfait avec une séance de qualif dont on va parler, sublime. Il devance Oscar Piastri, 2e, 18 points. Lando Norris devait monter sur le podium. Si vous avez écouté le warm-up du Grand Prix d'Abu Dhabi, vous aviez toutes les conditions en tête avant d'aborder ce week-end. Norris devait sécuriser son titre par un podium. Il a verrouillé la 3e place, ça a été chaud, mais il l'a fait. Lando Norris est donc champion du monde. 4e Charles Leclerc, 5e George Russell, Fernando Alonso termine bien la saison à la 6e place. Une vraie éclaircie également pour Esteban Ocon, 7e avec sa Haas. Lewis Hamilton, 8e, alors que ça a été encore une galère totale en qualif pour Hamilton. 9e Nico Hülkenberg, 10e Lance Stroll. Isaac Hadjar avait fait une superbe qualif mais s'est effondré en course. 17e place, et pour Pierre Gasly, 19e pour le pilote français. Et donc, je vous le disais, au championnat du monde, Norris qui devance Verstappen de 2 petits points. Jean-Luc, Lando Norris l'a fait,
oui.
Ça a été chaud. À un moment, on s'est tous dit qu'il allait trembler après le départ, mais il a finalement réussi à aller chercher ce Graal, ce premier titre de champion du monde pour lui.
Il faut beaucoup de respect pour un champion du monde, quel qu'il soit. Et on peut refaire les courses, on peut refaire les championnats autant qu'on veut. Chacun peut avoir son opinion. Une nouvelle fois, je sais qu'on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et il faut quand même préciser, effectivement, Norris, moi le premier, dans le cours de la saison, à certains moments, on s'est demandé s'il avait l'étoffe pour faire un champion du monde. Et c'était de bonnes questions qu'il fallait se poser. C'est notre rôle, on est là pour réfléchir. Et chacun d'ailleurs, chez soi, est capable de le faire. À certains moments, il ne l'était pas. Il l'a avoué lui-même. Il l'a dit. Il a raté quelques marches. Il a eu des trous d'air. Il s'est repris en main. Et puis la confiance est revenue. Et il a réussi à terminer la saison comme il devait le faire. Alors, de manière solide, je ne dirais pas exceptionnelle, encore une fois, parce que l'exception, la brillance, la fulgurance, elle est évidemment pour Verstappen, qui remporte 6 grands prix sur les 9 derniers. Là aussi, je suis désolé, mais il faut quand même le rappeler très clairement, à partir de l'Italie, il fait un boulot remarquable. Et d'ailleurs, mon Nico, tu viens de le rappeler en ouverture de ce paddock, c'est lui qui remporte 8 victoires dans la saison contre 7 à chacun de ses adversaires et il décroche également 8 pôles. Alors, est-ce que Norris fait un beau champion? Oui, bien sûr. Bah, c'est un gentil garçon. Ça n'est pas lui faire outrage, ça n'est pas lui faire offense que de dire ça. Il veut lui-même qu'on dise ça de lui. Donc c'est un gentil garçon, c'est un gentil fils. On l'a vu rendre hommage de manière très appuyée, je le comprends très bien. Et c'est tout à son honneur, à ses parents, à sa famille, à ses amis, à tous ceux qui l'ont soutenu pendant ce parcours qui a été long. Alors il a été long avant sa première victoire en Grand Prix. Avant une, là aussi, on est habitué maintenant à ce que les pilotes décrochent des titres très tôt, très jeunes. 26 ans, c'est quand même pas trop tard, hein, si on se replace dans le contexte. Il lui a fallu 152 Grands Prix chez McLaren depuis le début de la saison 2019. Bah, c'est de la belle ouvrage, comme on dit. C'est du beau travail. Il faut lui rendre hommage.
Il faut lui rendre hommage. Lando Norris qui était subjugué d'émotions à l'arrivée de cette course, il a dû vivre un week-end en enfer.
Sa maman Arnaud, aussi.
Ouais, sa maman aussi. Non mais la pression là au moment de franchir la ligne d'arrivée, avant de se replonger dans le Grand Prix, juste par rapport à ce que disait Jean-Luc, c'est vrai qu'on se pose tous cette question et c'est quand même assez paradoxal. Mais dès qu'on a su que Norris était champion du monde, on avait tous les fans de Formule 1 cette question à la bouche. Est-ce que c'est un beau champion du monde, franchement? Est-ce que, en fait, les prestations de Verstappen, qui paradoxalement, lui, fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, entre guillemets, mais dans l'esprit des observateurs, parce qu'avec une voiture qui est moins bonne, bah, il a réussi à faire une fin de saison de zinzin. Voilà. Et donc, du coup, on retient peut-être plus Verstappen que Norris. Du coup, on se demande si Norris fait un beau champion du monde.
Après, voiture moins bonne, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le cas sur la fin de saison, hein, quand tu es capable de claquer une pole avec deux dixièmes. D'avance là à Abu Dhabi, je pense que les voitures étaient égales, voire même parfois, et on le voit, la McLaren beaucoup plus forte dans les virages rapides, qui était le secteur 3 à Abu Dhabi, mais en ligne droite avec le moteur Honda, la Red Bull était vraiment forte. C'est un beau champion, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que c'est aussi quelqu'un qui n'a pas changé. On a été les premiers à critiquer, ben, est-ce qu'il est peut-être un peu trop gentil, on le comparait... On faisait des comparaisons avec Piastri et au final, il est champion comme il l'est, c'est-à-dire dans sa nature. Je l'ai vu encore avec ses déclarations. Je m'excuse, j'ai peut-être été un peu trop virulent dans des propos sur Max ou sur Russell. Et donc, il y a aussi une forme de clash chez Norris. Donc, c'est un beau champion. Il a été régulier. Notamment sur les qualifications, hein, c'est le pilote qui a la meilleure position moyenne, alors que si on regarde la meilleure position moyenne en course, si on fait la somme de vos positions, c'est Piastri qui est légèrement devant lui, hein, quand on regarde un petit peu les chiffres. Faut pas oublier, et Jean-Luc en a fait référence, il n'a gagné son premier Grand Prix il y a à peine 18 mois, c'était en mai 2024 à Miami, donc c'est très récent en fait, sa première victoire, tout est allé très vite, et on récompense la régularité, et Lando Norris a été plus régulier que Verstappen, plus régulier que Piastri, il y a eu un peu moins de trous d'air, et il est logiquement récompensé, et donc pour cette fin de réglementation et ce titre 2025, oui c'est un beau champion. Est-ce qu'il va rester dans l'histoire? Ça, c'est une autre question. Après, quand on est champion du monde de F1, on reste quelque part toujours un petit peu dans l'histoire. Mais il y en a qui sont un peu moins visibles que d'autres, même à un titre.
Oui, ça pourrait faire un bon débat de podcast. Ça. Tiens, bah, dans le débrief de la saison, on va essayer de placer Lando Norris par rapport au champion du monde à un seul titre. Ça peut être rigolo. Bien évidemment, tout ça est très subjectif. Je le précise pour tous.
Puis
les
10, juste sur la régularité, j'avais ce chiffre, 18 podiums sur 24. Parce qu'elle est là, ouais. C'est pas tant le nombre de victoires qui est important, mais 18 podiums sur 24.
Louis, replongeons-nous un petit peu dans ce week-end de course où on a vu un Norris performant en essai, notamment lors du vendredi, lors des deux premières séances. Il y a cette séance de qualification où Verstappen claque un tour monstrueux et on voit que Norris commence peut-être à subir la pression. D'ailleurs, il y a un jeu d'intimidation qui commence à se mettre en place, avec notamment les propos d'Helmut Marko qui déclare que Norris a toujours été nerveux au moment de prendre un départ à côté de Verstappen. Il y a ce fameux départ où Piastri prend le meilleur sur Norris. Là, on se dit, mais il est en train de se
liquéfier. En dur, en plus.
Et finalement, ouais, en dur. Et finalement, il tient le coup, Lando Norris.
Ouais, bah, le week-end a commencé avec Red Bull qui a voulu jouer dans tous les domaines, c'est-à-dire sur et en dehors de la piste, puisque comme tu l'as dit, Marco a pas mal parlé. On a Verstappen aussi qui a levé un peu le pied en fin de tour pour... cacher un peu son jeu et d'un coup on le découvre en pôle presque, alors pas par surprise quand même parce qu'on sentait bien venir le truc.
Deux pôles il fait même.
Mais voilà, il fait exactement, c'est ce que lui disent tout de suite dans la radio, tu as deux pôles. Donc clairement, après moi ce qui m'a quand même impressionné tout le week-end, que ça soit lors des essais comme des qualifs, c'est le dernier secteur de Norris. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans ce secteur qui fait qu'à chaque fois qu'il était en retard sur son tour, il pouvait finir avec le meilleur tour juste sur ce secteur. Donc c'était quand même assez impressionnant. Moi j'ai trouvé son week-end, c'était le week-end qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il est ce dépassement qu'on peut trouver potentiellement inquiétant de Piastri. Il savait aussi que c'était pas le moment d'aller bouffer ses gommes dès le troisième virage ou de prendre des risques, parce qu'il savait que troisième c'était aussi le championnat. Il savait que troisième et deuxième c'était potentiellement pareil, dans le sens aussi où peut-être que s'il se retrouvait juste derrière Piastri, c'était presque pareil, puisqu'il savait qu'il y avait des chances qu'on le laisse passer à la fin si c'était, on va dire, la seule moyen que nécessaire. McLaren ramène le... Voilà, nécessaire, que ramène le titre pilote chez eux. Donc, je me disais juste, s'il y a une safety car, mais s'il n'y en a pas, et alors, voilà, je vais faire le fiero une fois. La première fois que j'ai raison en 2 ans de paddock, je l'avais vu jeudi. J'avais dit, je pense que Verstappen peut gagner, mais que ça ne suffira pas, puisque Norris, je ne le vois pas en dehors du podium, il va faire troisième. Alors, il a joué avec les nerfs de tout le monde en étant troisième, puisqu'on a cru que Leclerc pouvait le déranger potentiellement, mais bon, ce qu'on disait aussi la semaine dernière, c'est que les Ferrari, elles étaient quand même un petit peu loin. Mercedes a été un peu absent du week-end, ça m'a un peu surpris. Je les aurais vraiment imaginés, Russell, être le trouble fait, un peu comme il l'a été d'ailleurs sur les derniers Grands Prix, il était toujours un peu dans le coin avec eux, et là on les a pas trop vus. Mais pour moi, Norris a fait le travail, il a sûrement eu un peu de chance, on en reparlera plus tard. Globalement, c'est un week-end de course, il t'en faut toujours un peu, mais ce que je vous avais dit la semaine dernière, c'est qu'à l'inverse, ils avaient tellement enchaîné la Schkumun ces derniers temps, qu'à un moment ça allait se calmer, on allait avoir une course, on va dire, entre guillemets, normale. Et c'est un peu ce qui s'est produit.
Il n'a pas tremblé.
Même fait des dépassements assez agressifs. Tu vous rappelez, en début de saison, on disait, ouais, mais la différence entre un grand champion et tout, c'est que Norris, lui, ces dépassements-là, Piastri, il les fait, lui, il ne les fait pas. Et ben peut-être que
il
c'est
a quand même donné. Il a eu un peu plus de caractère cette année, c'est ce qu'on lui reprochait.
Cette année, et surtout à partir de quand il a eu son coup de mou de début d'année, et là on était là à se dire oh là là, ça va pas. Mais sa deuxième partie de saison, quand il revient sur Piastri, depuis il est quand même assez solide, et c'est plus souvent la voiture qui lui a fait défaut. Mais lui, il a l'air d'être entré dans une ère où il a peut-être compris des choses et où il les vit différemment. Et surtout un gars,
Qu'il a dit d'ailleurs.
Et surtout un gars comme lui qui pouvait être un peu sensible à la pression ou quoi. Tu peux être sensible à la pression quand tu touches ton rêve du doigt. Là, ça y est, il l'a. Ça peut aussi peut-être le libérer.
Ça peut libérer
et
la
si
baisse,
l'année prochaine il a une bonne voiture, on peut voir un Lando Norris peut-être bien meilleur sur ces aspects-là. Et moi, ça ne m'étonnerait pas de voir un Lando Norris décomplexé qui, du coup, soit plus incisif, plus tranchant et meilleur, tout simplement.
Donc, est-ce que le prophète Louis Gerbier nous dit aujourd'hui qu'en 2026, Norris fait un back-to-back.
Non, j'ai eu bon une fois, je m'emballe pas. Je sais que là, je... ça va.
Ça dépendra tellement des voitures.
Et puis ça dépend. Ouais. Non, mais là, on est à l'aube d'une nouvelle réglementation. Donc, les projections, il faut se les garder pour soi parce que voilà.
Moi, Jean-Luc, je voulais revenir quand même sur la bonne stratégie des McLaren, parce qu'on a totalement fustigé leur choix un peu débile la semaine dernière au Qatar, de ne pas rentrer avec la safety car. Là, pour le coup, et d'ailleurs, ça a surpris Verstappen et Red Bull, ils décident de mettre les deux pilotes, Norris et Piastri, sur des choix stratégiques, des montes pneumatiques totalement différentes. Et ça a payé, Jean-Luc.
Bien sûr, mon Nico. Bah d'abord, écoute, je vais répondre par, je vais faire une réponse un peu provoque. On peut pas se planter tout le temps, quand même. Quand on est l'équipe championne du monde constructeur à deux reprises,
et qu'on s'appelle
McLaren,
on peut
pas faire que des ratés. Bon, parce que ce serait quand même énorme. En plus, là, il n'y a pas eu de stratégie, j'aime bien ce mot, vous le savez, à géométrie variable ou évolutive. C'était plan-plan. On est parti, ça s'est déroulé comme on a vu, et on n'a pas mis, pour une fois, ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'effectivement, la logique, c'était de partir en médium, bien évidemment, on le savait depuis l'an dernier, même si bon, la piste évolue toujours un peu, et puis ensuite de s'arrêter, à défaut qu'il y ait un virtuel safety car ou un safety car, encore une fois, c'était prévisible dans un cas sur deux, à peu près 50% pour le virtuel safety car. Mais bon, donc il n'y en a pas eu, donc les choses se sont déroulées normalement. C'était logique de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et là aussi de jouer la solidité et l'évidence en mettant des médiums à celui qui jouait le titre de champion du monde, c'est-à-dire Norris évidemment, et puis de tenter un coup avec des pneumatiques durs. Il n'y en a pas eu beaucoup hein, sur la grille, vous l'avez vu comme moi. Il y en a eu d'autres qui l'ont fait, qui ont essayé les durs, et de faire ça pour Piastri en lançant d'ailleurs Piastri, parce que c'était ça la stratégie, en lançant Piastri à l'assaut de Verstappen pour essayer de le déstabiliser, de le pousser, de lui faire flinguer ses pneus. Bon, ça n'a pas réussi parce qu'il n'a pas réussi à s'approcher, mais c'était une bonne stratégie, oui, il faut le souligner. C'était une stratégie, je dirais pas géniale non plus, il ne faut pas exagérer, mais qui était totalement logique, et je pense que Piastri a adhéré à ça en se disant « bon, on va tenter un coup ». Après, bah, ils l'ont poussé jusqu'au bout, hein, c'est le cas de le dire, puisqu'ils ont laissé Piastri en piste jusqu'au 42e tour sur les 58 tours. Bon, après, peut-être l'audace eût été de monter les softs à la fin pour la quinzaine de tours qui restaient, ils ne l'ont pas fait. Bon, écoute, c'est une bonne stratégie, je suis d'accord, mon Nico, je te réponds. Elle était relativement évidente, elle a été très bien exécutée, voilà.
Ouais, ouais. Revenons aussi sur ce fait de course, ce 23e tour, ce dépassement de Lando Norris sur Yuki Tsunoda. Lui aussi d'ailleurs, hein, Yuki Tsunoda, on lui avait mis les durs, probablement pour essayer à un moment de ralentir les McLaren,
voilà,
d'essayer de les
et
mettre
voilà
dans le trafic. Et d'ailleurs, on se posera la question du rôle de Tsunoda. Est-ce qu'il a vraiment tenu son rôle sur ce Grand Prix? Pas
il
forcément.
A
il a essayé. Il a essayé.
Je pense qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Hein,
oui, voilà. Oui, oui. Il y a ce dépassement du 23e tour là de Lando Norris, les gars, où Norris prend le meilleur sur Tsunoda et où il est complètement en dehors des limites de la piste.
De la piste, ouais.
Forcément, ça a fait jaser. Aucune décision des commissaires pour cet incident, ce fait de course. C'est pas un incident, c'est un fait de course. Alors qu'on a déjà vu des pilotes sanctionnés peut-être pour moins que ça. Comment vous vous êtes positionné là quand vous avez vu cette manœuvre et cette action?
Après, c'est un faux problème parce qu'à l'arrivée, Norris a 6 secondes d'avance sur Leclerc, donc il aurait pris 5 secondes, ça aurait rien changé. Moi, oui, je trouve que la décision prise est la bonne, même si c'est vrai que Tsunoda zigzague un peu avant ce freinage, mais pour l'ensemble de l'œuvre de Tsunoda sur sa défense un peu approximative, les 5 secondes ne me choquent pas, et le fait de ne rien mettre à Piastri, qui est quand même un petit peu tassé, même s'il n'y a pas un petit coup de volant de Norris, pardon, même s'il n'y a pas un petit coup de volant de Tsunoda à la fin, moi ça me choque pas. Je trouve que les commissaires ont bien fait.
Moi j'aurais même mis ce qu'on disait hier, j'aurais même mis fait de course, en fait, genre bon, Tsunoda a un peu abusé. Norris, il devait le dépasser, donc du coup, bon, il a mordu un peu en dehors. Voilà, bon, allez, on oublie. C'est un partout, oui, la balle au centre. Moi, tu vois.
Et on en a sanctionné un quand même.
Ouais.
Tsunoda,
ouais, ouais, ah, non, ouais, c'est pour ça. Moi, j'aurais même, je pense, dit, bon, bah, no further action, et puis voilà.
Mmh. Ouais. Ouais, ça, il y a rien à voir.
Ouais.
Ouais, Jean-Luc, pas de polémique sur ce dépassement de Norris.
Non, écoute, on peut. Alors, je suis là pour ça. Hein. Qui était le pilote qui était d'Astrand ce week-end? Et c'est un mec formidable.
Yuzi, non mec...
Je le connais bien. Non, c'est Derek Warwick.
Ah.
Britannique. C'est juste, j'allais juste dire ça.
Non, oh, mais arrête. Arrête, mais... Jean-Luc. Non, tu attises la haine de tous les complotistes qui nous écoutent.
Il y a que des Britanniques, donc forcément.
Non, mais écoutez, bon, c'est tout. Non, mais c'est pas scandaleux, je l'ai dit avant. C'est pas scandaleux du tout. Et j'allais dire, effectivement, en plus, Arnaud vient de le souligner, il aurait pris 5 secondes. C'est-à-dire, on les renvoyait dos à dos. On mettait les 5 secondes à Tsunoda parce qu'il a zigzagué. Et du coup, on mettait les 5 secondes à Norris parce qu'il a eu à dépasser en dehors de la piste. Pour éviter le type qui zigzague. Bon, non, il n'y a pas de scandale du tout. Voilà, puis ça ne changeait rien. Ouais. Donc, il n'y a pas de polémique à créer là-dessus.
Alors, voilà, je viens d'aller sur la fiche Wikipédia de Derek Warwick. J'ai oublié qu'il avait été pilote Renault.
Ça, ah, Jean-Luc, bien sûr.
Avec Jean-Luc Patrick l'a pas oublié.
Nous, avec Nico, avec Nico, on vient de l'apprendre.
Avec, ah ben non, avec Patrick Tombé. Ça a été un pilote solide, un type très sympa en plus, Derek Warwick. Vraiment, ouais.
Tiens les gars, je vous propose d'écouter Lando Norris au micro du diffuseur du championnat du monde de Formule 1 Canal+, d'ailleurs qui a cartonné niveau audience cette saison, ils ont communiqué. Ça a été un vrai carton, ce champion du monde.
Moins que nous quand même, moins que nous. Championnat.
Bien évidemment, c'est quand même bien de mettre en valeur la concurrence de temps en temps, Jean-Luc. Lando Norris au micro de Canal.
It's been a season of ups and downs. You know, the last few laps,
a
lot of those things go through your mind.
Lors des tours, ces moments, bah, vous reviennent forcément en mémoire.
Memories,
beaucoup de souvenirs. Une longue histoire avec McLaren. Mais avant ça, j'ai passé encore plus d'années avec la perspective d'être pilote de Formule 1 que d'années avec mon équipe actuelle. Donc c'est l'occasion de remercier chacun d'entre eux pour le temps consacré, le temps qu'on m'a consacré, pour tous les sacrifices. Que les autres ont fait pour moi. Les mécaniciens, les ingénieurs, tous ceux qui m'ont consacré du temps, qui m'ont supporté. Aujourd'hui, c'est le premier jour où je peux tous les remercier. Et c'est vraiment ce qui me rend le plus heureux. C'est pas forcément le titre de champion du monde. Mais savoir que j'ai rendu plein de gens très heureux, ça c'est la meilleure sensation du monde. Voilà, Lando Norris. Bah, il est touchant, Lando. Hein.
Oui, voilà, il est touchant. C'est un type correct, reconnaissant, gentil. Juste un mot. À un moment, il a évoqué, mais c'est dans l'émotion, je pense, il a évoqué 9 ans avec McLaren. Bah non, dans le meilleur des cas, c'est 8, parce qu'il avait été nommé chez McLaren en septembre 2018. Or, si je compte bien, même si on compte 2018, ça fait 8 ans, ça ne fait pas 9. Mais bon, c'est un détail. Hein. C'est juste pour préciser les choses. Et il a commencé.
Donc Jean-Luc est en train de nous expliquer que le champion du monde ne sait pas compter.
Voilà.
Non, il est ému et que, bah, écoute, l'histoire est tellement belle qu'il en rajoute une petite louche. Mais ce n'est pas grave. C'est un détail.
Bon,
voilà.
Plongeons-nous quand même sur la course de Verstappen. Jean-Luc, qui a encore fait un week-end XXL. Là. On parlait de cette séance de qualif où il sort deux tours chrono monstrueux là, à la fin. Bah, il est allé au bout de ce qu'il devait faire, en fait. Il pouvait pas faire plus. Il n'avait pas tous les éléments entre ses mains pour avoir le titre, Verstappen. Et voilà. Du coup, il échoue à deux petits points. Il peut avoir quand même d'immenses regrets sur l'ensemble de la saison, peut-être, hein, Verstappen.
C'est le meilleur pilote du monde. Tu sais, Alain Gérarol, ça vous parle un peu quand même.
J'adore.
Et je le répète, c'est le meilleur pilote du monde.
Bah, non, mais... On l'embrasse, Gérarol, s'il doit nous écouter d'ailleurs.
Bah, bien sûr, j'espère. Salut Gérard, si tu nous écoutes. Non, mais sincèrement...
Il suit la Formule 1 beaucoup. Hein. Je vous le dis.
Bah, bien sûr, il aimait ça en plus. Ouais. Type très sympa, Gérard. Bon, ouais. on revient à Max quand même. Eh bien, c'est le meilleur globalement. D'abord, on vient de le rappeler, 8 pôles, 8 victoires. Personne n'a fait mieux que lui. Une deuxième partie de la saison, surtout à partir de la Hollande, hein, chez lui, vraiment un déclic avec des évolutions de la monoplace dont il est évidemment directement responsable. Il y a tellement travaillé. L'arrivée, on ne peut pas ne pas le souligner, de Laurent Méquies, hein, aux manettes de l'écurie.
Le départ d'Horner peut-être... surtout, oui.
Le départ d'Horner, si tu veux.
Oui,
non, mais je préfère positiver, là, pour une fois. Donc, on a une équipe qui lui est entièrement dédiée. Qui a travaillé, mais comme des fous, l'émotion d'ailleurs de Giampiero Lambiase, et vous l'avez vu comme moi, hein, c'était touchant ça aussi, j'ai trouvé, puisqu'il y a quand même quelques petites incertitudes pour l'an prochain. Vous savez que dans le cours de la saison, Lambiase a été nommé à un poste plus important, mais je pense qu'il a souhaité, avec l'accord évidemment de Max, conserver son rôle d'ingénieur de course de Verstappen. Peut-être c'est la dernière fois qu'il le fera, en tout cas de cette manière-là, c'est ce que j'ai cru comprendre à son attitude. Donc, c'est
sur les réseaux, Jean-Luc, on lit qu'il aurait aussi des problèmes personnels qui normalement, il aurait pas dû être là, notamment au Qatar, et que voilà, il y a, je pense, dans ce trop-plein d'émotions, mais effectivement aussi qu'il veut, que son ingénieur historique pourrait prendre un peu plus de recul et être, de recul et être moins au, au contact sur la pitlane.
Et il avait été remplacé à deux reprises hein, dans le cours de la saison récemment. Donc voilà, donc je pense que oui, Max est un monstre. Hein. Il aurait pu donc entrer un peu plus dans l'histoire en décrochant un cinquième titre de champion du monde consécutif et à ce niveau-là rejoindre Michael Schumacher qui a été le seul à le faire dans l'histoire de la Formule 1 entre 2000 et 2004. Puisque bien sûr, on rappelle que Juan Manuel Fangio, dans les années 50, n'a pas aligné les cinq titres consécutifs. Donc, écoute, là, c'est une saison, il l'a dit lui-même, c'est sa meilleure saison. Je ne suis pas loin de le penser également. Parce que, et c'est, tu vois, autour de soi, vous avez plein de fans de F1, des gens qui n'y étaient plus, qui sont revenus. D'ailleurs, ça, ça fait très plaisir. Moi, j'en ai pas mal. Et qui détestaient Verstappen pour son attitude provocatrice, pour ses déclarations, pour ses attaques un peu insensées. Et ils sont restés sur l'impression d'il y a quelques années. Eh bien, il a pris une dimension humaine. Il a mûri, lui aussi, effectivement. Il a 28 ans. Il est là depuis une dizaine d'années. Il a pris de l'étoffe. Et puis surtout, là, il s'est accroché comme une bête avec une monoplace qui était inférieure, avec une écurie qu'on aurait pu penser en déroute, hein, avec des tensions, avec beaucoup de choses. Déjà l'an dernier, moi, je l'avais trouvé très digne, je l'avais trouvé formidable dans les turbulences qui ont aligné, justement, qui ont frappé, pardon, l'équipe Red Bull, les histoires entre effectivement, Horner, Marco, etc. Je trouve qu'il a pris une autre dimension. Alors, il n'a pas décroché le cinquième titre, mais c'est à venir. Voilà.
On va l'écouter, Max Verstappen, et après Louis Arnaud, on parle de son week-end de folie où il aura mis la pression jusqu'au bout au McLaren.
Not really regrets, to be honest. I mean, there's not much more that we could have done.
J'ai pas vraiment de regrets. Nous n'aurions pas pu faire beaucoup plus, surtout sur la deuxième partie de saison. On a magnifiquement retourné la situation en tant qu'équipe par rapport à là où on était en milieu de saison. C'est franchement bien mieux. On est bien plus confiant en tant qu'équipe, et c'est ce dont nous avions besoin pour l'an prochain. Bien sûr que rater le titre pour deux points, c'est pas ce qu'on veut, mais en même temps, peu importe. Si on le perd d'un, 10 ou 20 points, c'est le même résultat, on l'a perdu. On est fiers, on est fiers. Et je suis heureux aujourd'hui, globalement, du week-end. Il a été génial. Et c'est une bonne fin pour cette saison 2025. Il a raison, Verstappen. C'est vrai que tu le perdes de 2, de 20 ou de 40 points, même tarif. Tu le perds.
Et quelle remontée quand même, hein, j'ai oublié de le dire, pardon.
Bien sûr.
Moins 104 points sur le leader qui était Piastri, et là, moins 2 points sur le vainqueur. Enfin, c'est unique dans l'histoire.
Non, mais si on nous avait dit, après la Hongrie, vous aurez droit à cette fin de saison-là, on aurait tous signé des deux mains, avec les deux pieds, tout ce que vous voulez. Donc, la remontée est là, on a vibré, ce qui nous a tenu en haleine.
Mais même
de
sur ce week-end, il fait encore le taf comme
il
jamais.
Fait le max. Alors,
il fait le max, excellent. Il fait le maximum.
Alors, il a géré sa course, parce que quand tu regardes un petit peu les temps moyens et le rythme, c'est Norris qui clairement est allé mettre les meilleurs tours. C'est Charles Leclerc en deuxième qui fait un super grand prix avec la monoplace qu'il a. Et Max Verstappen s'est contenté, en bénéficiant de ce clean air, de ménager ses gommes, de gérer tranquillement une victoire maîtrisée, comme un pilote avec cette réglementation, quand il part de la pole position, doit simplement gérer sa course. C'est ce qu'il a fait, il n'a pas tremblé. S'il y avait eu un incident de course, on était là, on était présent chez Red Bull. Il a fait sa part du job. Malheureusement, dans une saison, il y a eu beaucoup de hauts, que ce soit aussi pour les McLaren et lui, et il y a eu quelques bas qui, quand on fait l'addition, coûtent ce titre.
Mais vous savez quoi, la semaine prochaine, dans le débrief de la saison, on se penchera un petit peu sur les moments ratés là, de
Red Bull,
début de saison, dans le détail. Juste, Louis, moi, il y a une question que je me suis tout de suite posée. Est-ce que Red Bull aurait pu faire les choses différemment ce week-end? Peut-être tenter un truc encore plus audacieux.
À part que Tsunoda passe vraiment de Norris.
À part qu'il l'emmène directement.
À part que Flavio arrive sur la passerelle de commandant, maquette, il lui donne un coup de l'eau.
Non, mais je vous pose la question. Et justement, est-ce que si Red Bull avait eu un deuxième pilote cette saison, Verstappen aurait été champion du monde? C'est aussi une des questions qui se posent.
C'est une possibilité probable, parce que quand tu vois Yuki, c'est bien ce qu'il essaye de faire. Il essaye de faire le peu qu'il peut faire, quoi. Mais là où il aurait vraiment aidé, c'est d'être à la place de Charles Leclerc ce week-end.
Et de piquer des points.
Oui, parce que si, s'il arrive à emmener la voiture un peu comme son coéquipier et qu'il s'intercale, là, ça change tout. Donc, c'est clair que l'autre, il devait se battre à 2 contre 1, particulièrement ce week-end-là, où pour la première fois, on avait compris que potentiellement...
C'est 2 contre 1,
puis, voilà, potentiellement, un contre 2, ouais. Piastri allait faire en sorte que s'il pouvait faire en sorte que Norris soit champion, il le ferait en gros, quoi, si lui était finito. Donc, moi, je pense que c'est clairement ce qui manque, et surtout, ce qui manque aussi à Red Bull, c'est quand tu finis à 2 points, c'est toute cette première partie de saison où c'est le bazar à tous les niveaux et que ça impacte la course et les points directement le week-end. Et que tu te dis, tu peux te dire à tous les niveaux, hein, t'as le grand patron, il se dit, ah, peut-être que si j'avais viré Horner et mis McKiess le grand prix d'avant, les 2 points, on les aurait eu là. Enfin, tu vois, à tous les niveaux, on peut refaire l'histoire. Donc, oui, c'est sûr qu'un deuxième pilote, il est grand temps qu'ils en aient un quand même, parce que tu ne peux pas chaque année avoir une voiture qui est vraiment au-dessus comme ça l'a été le cas et où Verstappen avait besoin de personne. Mais on voit quand même que il est tellement fort qu'avec un seul pilote, il l'a fait 4 fois. Et moi, je suis d'accord avec Jean-Luc, il pourra le refaire d'être champion tout seul.
Mais peut-être que ça passe... quand tu es à la lutte et que tu as un coéquipier qui est mauvais, ça passe une saison, mais pas deux. Quand tu prends l'histoire récente, c'est passé un peu, et encore, avec Bottas, parce qu'en 2021, tu perds, il était un peu dans les choux, notre ami.
T'es en train de dire que Bottas est mauvais, là ?
Valtteri Bottas. Mais sinon, Bottas était solide. Rosberg était solide et a même pris un titre à Hamilton. Vettel, Mark Webber, c'était très solide. Donc, tu vois, t'as... Chaque champion du monde des pilotes... Quand tu regardes globalement, il y a quelques exceptions, mais avait un coéquipier qui était performant. C'est aussi la même voiture, donc il y a une forme de cohérence aussi.
Absolument. Ouais. Et on le voit au championnat constructeur, hein, là aussi, pour abonder dans votre sens, où Red Bull termine 3e. Bon, évidemment, sur la valeur de Max, il devrait être 2e, au moins. On est
Max est devant Ferrari. Alors,
t'as compris. Oui, mais Ferrari, je fais de la provoque aussi. Hein. Je le dis avant parce que je vais me faire encore descendre. Ferrari n'avait qu'un pilote ennemi aussi, quand même. Hein.
Ouais, il a rajouté 0,5, c'est bien.
Verstappen a quasiment 400 points de plus que Yuki Tsunoda sur la saison. 33 points seulement pour Tsunoda à la fin de cette saison 2025.
Que Tsunoda 421. Est passé toute la saison dans le baquet merde de l'écurie. Mais quand même, ça reste un gouffre.
Il a juste raté 2 courses.
Mais il a raté 2 courses. Ouais, ce que je
pas
dire.
Non plus.
C'est clair.
Il a raté 2 week-ends.
Il y a un élément, les gars. Oui, juste, vous le savez très bien, pour compléter ça, je veux pas sauver Tsunoda du naufrage, comme je ne veux pas sauver Lawson, comme à un moment je l'ai défendu aussi. Mais ils n'avaient pas essayé la monoplace pendant l'hiver. Ils n'ont pas contribué. Ils ne connaissaient pas l'équipe. Et sincèrement, tout le monde l'a dit, c'est un élément quand même très important. Regardez, et là pour être sérieux, tant Hamilton que Sainz, en changeant d'équipe, et ils avaient du mal en début de saison. Donc imaginez de jeunes pilotes qui n'ont pas leur expérience et qu'on place dans un baquet. Ils ne connaissent pas les gens avec qui ils travaillent. Bon, il faut quand même le dire à leur décharge, hein, et pour les aider, clair. Pour l'expliquer.
C'est clair. Tiens, parlons un petit peu du week-end de Charles Leclerc qui a réussi pour le coup. C'est vrai que c'est un week-end dans l'anonymat. Leclerc qui termine 4e, alors que il fait un très très bon dernier Grand Prix. J'englobe qualif et course. On l'écoute et après Jean-Luc, on parle de la course de Leclerc qui est à l'image de sa saison, hein, de toute manière.
Oui, il nous en a manqué encore une fois malheureusement, mais c'est comme ça. J'ai pas de regrets. J'ai tout donné. Je pense qu'on a fait. Enfin, je suis très content encore de ma course, mais bon, on n'a pas la perfo.
Quel bilan vous faites de cette année, une année sans victoire pour Ferrari? Comment on se projette sur 2026?
Ça fait mal. J'ai même plus envie d'y penser. J'ai envie de penser à l'année prochaine et oublier celle-là.
Et est-ce que vous avez un petit mot sur le nouveau champion du monde?
Bravo à lui et bravo à McLaren. Ils ont fait un super job et un meilleur job que les autres tout au long de l'année. Donc voilà, bravo à Lando qui a fait un travail exceptionnel, surtout en cette fin d'année où il a fait aucune erreur et il conduisait à un niveau très élevé, donc bravo à lui.
fatigué Charles Leclerc au micro de Canal. Tu sens qu'il est épuisé mentalement.
Il sait plus quoi dire.
J'ai l'impression que c'est les mêmes. C'est ça. J'ai l'impression que c'est les mêmes débriefs de course depuis depuis le mois de janvier. Bon, sans on se fera le bilan global de la saison de Ferrari la semaine prochaine en débriefant les perfs en détail de Leclerc, d'Hamilton, Jean-Luc. Mais je te disais que c'était un week-end à l'image de la saison parce que Charles Leclerc il fait une course incroyable. Il fait une séance de qualif où il arrive à placer sa voiture en Q3 et a signé un super chrono et il n'arrive pas à faire mieux que quatrième quoi.
Bah voilà, écoute, tout est dit. Charles Leclerc, en voilà encore un pilote qui évidemment a l'étoffe d'un champion du monde. Je crois qu'on est tous d'accord, qui a un talent étincelant, qui est donc lié, qui a lié son destin à Ferrari sur le long terme, hein, puisqu'on sait, on n'a pas la durée exacte, mais il a un contrat certainement au moins jusqu'à fin 2028 probablement. Est-ce qu'il restera ? Ça, c'est une autre question qu'on se posera à la fin de la saison prochaine, à la fin de 2026, parce que je pense que lui se la posera si, malheureusement, la Ferrari n'est pas du niveau. Alors maintenant, que Charles garde la tête dans le guidon, qu'il ne la relève pas, qu'il, si lui aussi a des états d'âme, il n'en fait pas trop état, à part sa déception évidemment concernant l'efficacité de sa monoplace, et ça je comprends que là aussi, il arrive à aligner quand même suffisamment de podiums, 7 ou 8 hein, si je me rappelle bien, ce qui est incroyable avec la machine dont il dispose. Là encore, il fait une qualif ahurissante, lui-même ne sait pas d'où ça sort, il fait un grand prix courageux, où tant qu'il a encore un petit peu de pneumatique, eh bien, il essaie de donner l'illusion que peut-être il va pouvoir attaquer Norris, et tant mieux, ça nous fait du suspense, mais on comprend rapidement qu'après 5-6 tours, bah, il n'a plus de pneus, il n'a plus rien, et après il gère. Donc il fait le boulot, là aussi, avec ce qu'il a. Comme il le dit, il n'a pas envie de revenir sur la saison. On tourne la page et on espère et on croise tous les doigts pour que la monoplace sur laquelle Fred Vasseur nous l'a rappelé hein, très tôt, depuis avril, on a concentré toutes les forces de Ferrari qui sont énormes. Il faut absolument, je dirais c'est vital pour tout le monde, que la Ferrari 2026 soit au niveau et permette à ses pilotes, et j'englobe évidemment Hamilton, de se battre pour les victoires, pour les podiums et pour le titre.
Ouais. Après, ça fait 15 ans qu'ils n'ont pas réussi une nouvelle voiture lors d'un changement de réglementation. Hein, donc, bon.
Ouais.
T'es médisant.
Ça peut arriver quand même.
Non, je suis factuel. Je ne suis pas médisant, je suis factuel.
Oui, bah, je sais bien.
C'est vrai.
Bon, enfin, ils se sont battus quand même la saison dernière, hein, jusqu'au bout.
Oui.
Bon.
Lewis Hamilton a encore galéré en qualif, les gars. Le chiffre, c'est quoi ? C'est 3 ou 4 éliminations ? 3 éliminations consécutives
oui, 3 de suite en
Q1. Ouais, voilà.
C'est énorme.
C'est ça. Ouais. Arnaud, oui, c'est colossal quand même pour Lewis Hamilton. D'ailleurs, petite stat, c'est la première année qu'il ne monte pas sur un podium en 18 ans de Formule 1. C'est jamais arrivé. Bon, ça a été encore un week-end galère pour Hamilton, même si Arnaud... en course, il a réussi à sauver les meubles, on va le dire comme ça.
Oui, il remonte pour faire une P8. En course, il y a encore un peu de magie. Alors, c'est vrai que les qualifications sont catastrophiques, mais j'ai l'impression que le scénario des 3-4 dernières courses, c'est Hamilton totalement largué en qualif, mais qui en course, dans ce trafic, arrive quand même à aller chercher une dizaine de places presque. Donc, ça prouve qu'il y a encore de la magie dans ce pilote. Et je vais peut-être me raccrocher à ça pour me dire que eh ben, en 2026, ça va être un nouveau départ et peut-être qu'on va retrouver la flamme que ce pilote a, qui a donné beaucoup de bonheur, beaucoup de magie aussi avec ses 7 titres. Donc, c'est une fin de saison un peu en eau de boudin, mais... Allez, je me raccroche un petit peu à ça, le voir en course, pas être au fond avec les Alpines notamment, et aller chercher quand même des petits points comme ça et aller faire des déplacements. Ça veut dire qu'il est encore un peu concerné, même si on voit effectivement avec ses déclarations qu'il n'a plus envie d'être là, le garçon. Mais il y a peut-être encore quelque chose, donc je vais me raccrocher à ça.
Bah, en tout cas, là, je pense qu'il a envie d'être en vacances. Et on le coupe.
Il l'a dit, parce que il va couper le téléphone et personne ne pourra le joindre. Donc,
Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Louis, la bonne nouvelle côté français de ce dernier week-end de Grand Prix, c'est Esteban Ocon. Esteban Ocon qui était dans le catastrophisme après les premières séances d'essai là, à Abu Dhabi où il disait qu'il n'arrivait pas à conduire, que c'était l'enfer et qu'il galérait vraiment. Ils ont réussi à trouver quelque chose avec As pour terminer à la 7e position, surtout pour faire un meilleur week-end qu'Oliberman. Mmh. Et ça, c'est quand même l'info du jour parce qu'on le disait que le rapport s'était bien inversé entre Ocon et Berman. Au final, au championnat du monde, il termine très proche. Berman a 3 points de plus que Ocon. Donc... Donc voilà. Mais ça fait du bien de voir Esteban Ocon retrouver de la performance à ce niveau-là.
Ouais, je pense que, alors évidemment, tout de suite, tu te dis, bah, c'est un peu bête d'avoir fait ce reset et d'avoir enfin trouvé les choses le dernier dimanche. C'est ce qu'il dit d'ailleurs, lui, Esteban. Il dit qu'il était très content, mais que du coup, ça le frustre encore plus parce qu'il savait bien qu'il y avait bien de mieux à faire dans cette voiture. Mais je pense que c'était quand même très important parce que justement, la petite musique qui était en train de monter, c'est que ça faisait quand même un moment que Berman était devant et qu'on commençait à lire ou entendre des gens remettre peut-être en cause un peu le talent et les capacités d'Esteban. Esteban, qui est quand même le pilote le plus expérimenté de l'écurie, donc qui doit aussi jouer un rôle dans les progrès de l'équipe, dans les évolutions de la voiture. Et donc de le voir, on va dire même sévèrement à la traîne par rapport à Berman ces derniers temps, ça commençait à être inquiétant. Et ce que sûrement ce week-end a prouvé, c'est que c'était un problème, un problème sur la voiture, sur la sienne apparemment uniquement, problème qui a été identifié, réglé. Et là, d'un coup, il a retrouvé, toutes ses performances, son talent, sa fougue. Je pense que lui, là où c'est très important, parce que sur la saison, ça n'aura rien changé, c'est sur son hiver et sur la suite. Parce que je pense que partir... Partir cet hiver dans l'état d'esprit avant ce dernier Grand Prix, c'est-à-dire de ne plus valoir rien, il le disait en interview, il dit, ouais. J'en étais à me dire, est-ce que c'est moi qui sais plus conduire une bagnole? Donc tout ça joue, donc je pense que c'est très important pour la suite pour Esteban d'avoir réagi maintenant et d'avoir montré à tout le monde que il sait toujours faire pour lui, pour les autres, pour As aussi, parce que on sait aussi que Toyota arrive, que Toyota quand ils arrivent ils aiment bien quand même essayer de placer un jeune pilote japonais, ce qui est assez normal puisque c'est une entreprise japonaise, ça marche souvent comme ça en F1. Et donc on peut aussi imaginer que si les mauvaises performances continuaient un peu trop longtemps, on commence à peut-être à réfléchir à évincer Esteban et ça serait très moche. Donc là, il a remis les pendules à l'heure pile au bon moment, là, juste avant l'hiver. Ça va pouvoir un peu calmer les esprits et remettre de la sérénité à tous les niveaux chez As en se disant non, mais il n'y a peut-être pas en fait de soucis avec ce pilote. C'est plutôt pourquoi on a mis 6 mois à trouver ce qui n'allait pas et de se concentrer là-dessus et du coup moi je suis très content et je pense qu'il doit être soulagé énormément d'avoir fait ce dernier Grand Prix et il était bien salvateur je pense parce que sinon ça aurait peut-être été tu vois un enchaînement très 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 mauvais pour lui et là hop on arrête un peu tu vois l'hémorragie quoi.
Et on n'oublie pas parce que tu rajoutes le côté japonais que le team principal est japonais.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Et j'allais citer Ryo Hirakawa, puisque c'est à lui que tu faisais allusion,
ouais,
hein, Louis,
qui
a participé à la FP1 et qui était à moins de 2 dixièmes de Berman.
Dixièmes. Dans la voiture.
Donc ça, là vous savez que ça c'est très important et c'est comme ça, on en a vu d'autres, hein, notamment Lindblad, qui ont impressionné leur équipe parce qu'eux ils savent dans quelles conditions ils roulent, avec quel carburant, quel mode de moteur, quel pneu, enfin etc. Et je pense qu'Hirakawa, il est du calibre. Et il était à la place d'Esteban. Hein. Là, encore une fois, c'est la réglementation. Donc, c'est très, très bien qu'Esteban ait pu réagir et enregistrer ce très beau résultat.
Tiens, on l'écoute. Esteban Ocon avec Canal+, soulagé.
Ouais, c'était une belle course. Très content de finir la saison de cette manière. J'aurais aimé qu'on soit comme ça plus souvent dans cette année. Mais bon, on a trouvé les clés sur cette dernière course. Et c'est quand même positif parce que, comme je l'ai dit, ça amène de la confiance à l'équipe pour cet hiver. Ça amène de la confiance en pensant qu'on peut saisir les opportunités quand elles se présentent. Mais c'est sûr que oui, on a perdu ce championnat constructeur avec tous les points qu'on a ratés sur ces 8, 9, 10 dernières courses où on n'avait pas la performance. Et ce week-end, on a montré qu'on pouvait le faire. Donc il y a un petit goût de rater de ce côté-là, un peu dommage forcément, mais on va tout donner l'année prochaine pour changer tout ça. Et bravo à Lando aussi pour cette belle fin de championnat. Clairement, il le mérite. C'est une belle fin et je suis content pour lui.
Esteban Ocon avec Canal+. Il y a un autre Français qui a galéré, c'est Isaac Hadjar. Alors Isaac Hadjar, le pauvre, il fait une saison de dingue. Il arrive à placer sa Racing Bulls alors qu'il a galéré tout le week-end. Hein. Jean-Luc Hadjar, il le disait.
Ah oui.
Il termine seulement 17e. Du coup, il perd sa place dans le top 10 du championnat pilote. Hein,
c'est Alonso, ouais.
Ouais. Alonso, ça, c'est, lui ça, passe c'est devant dur, et Hülkenberg lui passe devant.
Hein. Et oui, il termine 12e. Ouais. Alors, pour revenir sur Isaac, là aussi, il est très bon en qualif, hein, toujours. Là, il est dans le top 10, c'est superbe. Il est vraiment rapide sur un tour, il a cette étincelle. D'ailleurs, Laurent Mekies l'a souligné, il a cette rapidité. Et ça, on l'a ou on ne l'a pas. Ça, c'est absolument formidable. Alors après, en course, et c'est normal, encore une fois, c'est un rookie, hein. C'est là qu'il doit progresser, lui, personnellement. Il doit peut-être mieux gérer ses pneus, peut-être. Là, c'est vrai que c'est un Grand Prix galère, hein. Là, vraiment pour lui, parce que quand on part 9e et qu'on termine effectivement aussi loin, puis largué, hein, 17e, c'est que ça s'est mal passé, manifestement. Bon, ça lui coûte 2 places au championnat, ce qui est anecdotique, hein. C'est pas plus grave que ça, à égalité de points avec Nico Hülkenberg, qui est quand même aussi l'un des pilotes les plus expérimentés du plateau. Je rajouterai juste un mot, mon Nico, si tu veux bien, sur Haas, qui termine donc 8e au championnat constructeur, ouais. Derrière Aston et devant Sauber pour la dernière année. Sauber, on en dira peut-être un mot si on a le temps tout à l'heure. Donc c'est honorable, hein, la bataille avec Aston, on l'a vécu toute la saison pour Haas. Mais j'en reviens donc à ta question sur Isaac. Ben écoute, alors si on ouvre la perspective, et c'est évidemment ça peut-être qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il est chez Red Bull, c'est ce qu'il souhaitait, c'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il avait demandé. Maintenant, on sait que la charge, la mission, là, la pression, elle va être maximale. Parce que Max Verstappen, on ne va pas refaire la liste, on l'a fait plein de fois, il a explosé tous ses partenaires, tous ses équipiers depuis qu'il est là, pratiquement sans exception et des fois très rapidement. Donc, il faut que Isaac
soit... Seul Ricardo lui avait tenu un peu tête, mais c'était...
Oui. Seul Ricardo, mais il avait plus de métier que lui à l'époque. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'était l'inverse. Hein. Je parle des jeunes pilotes, pour être plus précis. Les pilotes moins expérimentés, malheureusement, il y a eu Pierre, enfin, il y en a eu plein. Donc, là, c'est un Everest auquel Isaac s'attache. Bon, c'est ce qu'il voulait et il a raison. Il faut être ambitieux. Il a les moyens, je pense, de le faire. Maintenant, il faudra très, très bien travailler dans les essais d'avant-saison. Une parfaite symbiose avec l'équipe. Et puis, je l'ai déjà annoncé, s'il est à moins de 3-4 dixièmes de Max, ce sera un exploit. Je parle en essai, hein, sur un tour. Ça partira bien. Voilà son objectif, parce que là, il faut en fixer un. Moins de 3-4 dixièmes, parce que sinon, les autres ont fait le reste. Hein.
Parfois, Red Bull te donne des ailes, mais elle te les brûle aussi.
Oui.
Oui, oh là là,
belle image. Comme Icar, en se rapprochant du soleil.
Oui. Tiens, on l'écoute, Isaac Hadjar, dégoûté, hein, après ce dernier Grand Prix à Abu Dhabi.
Je sais même pas comment je la mets 9e en qualif, la voiture. Honnêtement, je savais qu'on allait avoir un mauvais rythme, je l'ai dit hier. Mais de là à être aussi nul, je comprends pas.
Mais tu vois, Nico, là, quand on. Voilà. Les dernières fois où on entend Isaac. Ça, je pense que c'est une communication que tu ne peux pas avoir quand tu es pilote chez Red Bull. Tu peux l'avoir.
Pourquoi?
Chez Racing Bulls, de dire je suis nul, la voiture avance pas, là c'était quoi, une voiture en plastique au Qatar, je crois que c'est ça qu'il dit à un moment.
Oui,
parce que
en plastique, faudra pas le répéter. Ouais.
Je pense
que
c'est quelque chose que tu ne peux pas dire quand tu es chez Red Bull.
Oui.
Ça va faire partie aussi du changement de statut. Oui. Là, t'es pas dans une écurie, entre guillemets, de développement, qui est aussi une bonne écurie.
C'est sûr que l'institution change, t'es plus cadré, mais après, faut pas...
Et t'arrives chez des purs britanniques, là, Racing Bull, c'est encore un peu italien, tu vois.
Oui.
Là, t'arrives vraiment chez une écurie très britannique, même si t'as Laurent Mekies, t'as Pierre Vacher aussi qui est là.
Après, est-ce que Red Bull avait dit à Verstappen de fermer un petit peu sa bouche au moment où il débarque en F1 avec cette insouciance, tu vois, ce caractère déjà affirmé.
Les autres, ils critiquaient pas sa voiture. Je me rappelle pas trop l'avoir vu défoncer sa propre équipe.
Non.
Hein.
Moi non plus.
Ouais.
Jamais. Au contraire, il les a soutenus.
C'est vrai. C'est vrai.
Et le seul qui critique un peu sa voiture, c'est sur le paddock, c'est un Charles Leclerc, mais il a le droit, quoi.
Ouais.
Tu vois. Ouais.
Oui, puis il a un autre statut. Ouais.
Exactement. Voilà. Ouais. C'est ça que je dis. Il a le droit. Donc c'est pour ça, tu vois, dans les dernières déclarations, je me dis, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir modifier parce que c'est pas du tout la même exposition et c'est pas du tout les mêmes conséquences derrière.
Ouais, c'est vrai. De toute manière, on se plonge dans les perspectives de 2026 la semaine prochaine. Bilan de la saison d'Isaac Hadjar, bien évidemment, on va revenir sur cette saison de fou pour lui qui lui a permis d'obtenir un baquet chez Red Bull. C'était le dernier Grand Prix, dernier débrief de Grand Prix de cette saison, les gars. On s'est régalé. Je voulais dire merci à tous nos auditrices, toutes nos auditrices, tous nos auditeurs qui nous suivent depuis le début de la saison parce que franchement, on parlait des chiffres du diffuseur, mais nous aussi, il y a de plus en plus de gens qui nous écoutent. Donc restez connectés. Semaine prochaine, débrief complet de la saison. On le disait. Là, on va rentrer dans le détail. Et là, ouais, vas-y, Jean-Luc.
Et puis Monico, non, Arthur, Kylian, enfin je vais pas citer tout
bien
le monde,
sûr. Tous et ceux toute qui sont avec nous, Arnaud, Julien Larréal, Kylian, Arthur, on pense bien évidemment à Tristan, à Séraphin Bête, Alex Caldiodé qui a fait tout le début de saison, tous les gens qui ont participé bien évidemment au podcast, c'est grâce
Dorès,
à tout le monde.
Le fan d'Alonso.
Bien sûr. Toto,
les 2000 personnes à l'usine, comme dirait.
Voilà, le seul problème de Toto, c'est qu'il participe au podcast dans les oreilles.
Dans les oreilles, ouais.
Dans nos oreilles, alors qu'on l'entend pas à l'antenne. C'est le seul problème.
Mais
et
sinon, c'est vaut mieux peut-être.
Et toi, ça te perturbe de fou parce que du coup, t'as Toto qui te hurle ah, Alonso, c'est le meilleur, et alors que t'es en train de parler. Et c'est pour ça qu'on l'aime.
Bon, allez, on embrasse tout le monde en tout cas, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Ciao.
Le paddock RMC.